France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 juin, l'appel du 18 juin 40, c'était donc il y a 80 ans, en pleine débâcle, le général de Gaulle appelait les Français à résister et à le rejoindre. 80 ans après, France Inter vous propose donc une journée spéciale autour de la vie de de Gaulle, de ses combats, de l'empreinte puissante qu'il a laissée aujourd'hui, notamment dans la vie politique, archives, reportages, débat tout au long de cette journée. Et dans le 7-9 à 7h15, le nom de Gaulle en héritage. À 8h20, avec Léa, nous recevrons dans le grand entretien de la matinale l'historien Julian Jackson, auteur d'une biographie monumentale du général de Gaulle, publiée aux éditions du Seuil. Vos questions dès maintenant, le standard vous attend au 01 45 24 7000. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Les autres titres.
C'est déjà le retour au monde d'avant dans les hôpitaux avec des fermetures de services faute de médecins. Près de 80 millions de réfugiés et déplacés dans le monde, un record depuis 30 ans. Et puis une fête de la musique avant l'heure demain soir sur France Bleu et France 2.
Et votre invitée Léa, 7h50.
La douloureuse arrive chez Air France. La compagnie à terre après le Covid-19 envisage de supprimer entre 8 et 10 000 postes. C'est énorme, près de 20% des effectifs. Il réagira à ces chiffres. Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire sera avec nous à 7h50.
Tout à l'heure.
France Inter.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
Il y a 80 ans, l'appel du 18 juin, le général de Gaulle s'adresse aux Français via la BBC, un discours de 4 minutes dont il n'existe pas d'enregistrement. Celui qu'on vient d'entendre date du 22 juin. Quelques jours plus tôt, le maréchal Pétain a capitulé face à l'Allemagne. Inconcevable pour le général de Gaulle qui prend la tête de la résistance. Et c'est cet attachement à la République française qu'Emmanuel Macron entend saluer aujourd'hui en se rendant à Londres. Le chef de l'État va multiplier les cérémonies pour célébrer Cyril Graziani, cet acte fondateur de la France libre.
C'est le premier déplacement du président de la République à l'étranger depuis le début de la crise sanitaire. Emmanuel Macron s'envolera pour Londres en fin de matinée sans se soumettre aux règles de quatorzaine imposées par les Britanniques aux voyageurs qui traversent la Manche. Il est heureux de retrouver sa liberté de mouvement et de reprendre une activité diplomatique en face à face, confie son entourage. D'abord à la résidence du prince Charles et de Camilla, puis en décorant de la Légion d'honneur la ville de Londres, une distinction rare de la part de la France. Dans son discours, le président veut insister sur l'esprit de la République. L'exil outre-Manche de Charles de Gaulle en juin 40 a permis sa continuité. Emmanuel Macron veut s'inscrire un peu plus dans les traces du général. Depuis son élection, il ne cesse de revendiquer son héritage. Le président veut ainsi montrer que ce lien fort, historique avec le peuple britannique ne s'efface pas au premier coup dur. Les négociations âpres menées dans le cadre du Brexit, qu'il évoquera avec Boris Johnson en clôture de cette journée.
Depuis ce 18 juin 1940, la classe politique française n'a cessé de revendiquer l'héritage du gaullisme, la droite bien sûr, mais également cette année et pour la première fois le Rassemblement National. Marine Le Pen souhaitait se rendre aujourd'hui sur l'île de Sein dans le Finistère où tous les marins ont répondu à l'appel du général. Mais la présidente du RN n'était pas la bienvenue. Elle a donc effectué hier un aller-retour express marqué par l'hostilité affichée des habitants de l'île. Un rendez-vous manqué, Maxence Lambrecq, qui inquiète ses partisans.
Retour à la case départ, souffle un cadre du parti. Aux déplacements amateurs improvisés, comme sa visite sous les huées de la cathédrale de Reims dans l'entre-deux-tours de 2017 ou le fiasco de la Trump Tower à New York. Marine fonctionne toujours à l'instinct, dixit un proche. Cela peut donner le coup d'éclat de Whirlpool ou ce coup de vent sur l'île de Sein. À quoi bon annoncer sa venue une semaine avant, s'interroge un parlementaire RN. L'effet de surprise aurait été tellement plus fort. Si on n'arrive pas à gérer 10 excités, comment prouver qu'on saura gérer la France ? De retour au port, hier soir, Marine Le Pen a encore été sifflée avant de tenir une conférence de presse avec nos confrères de France Bleu Brésil.
Est-ce que l'État a encore de l'autorité ? Et est-ce qu'il entend se servir de cette autorité pour préserver nos droits politiques ? nos droits politiques dont je vous rappelle qu'ils sont inscrits dans la Constitution.
Cette victimisation, ça ne fonctionne plus, réagit un élu. Macron n'a rien à voir avec ça, on n'a juste pas su anticiper, organiser la séquence, admet-il. Il faut dire que la chef de cabinet de Marine Le Pen est maintenant députée européenne. Son équipe est on ne peut plus restreinte. L'essentiel, c'est qu'elle continue de faire l'actualité, se rassure un député RN, et cette histoire sera vite oubliée.
Et Marine Le Pen qui envisage une action en justice contre le préfet du Finistère qui l'a empêché, dit-elle, d'assister à l'hommage du 18 juin.
Il est 7h05, Air France veut supprimer plus de 8000 postes.
400 pilotes, 2000 hôtesses et stewards et 6000 personnels au sol concernés. Le plan sera présenté officiellement début juillet. La compagnie aérienne table sur des départs volontaires. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h30. Autre secteur en crise, la presse. Next Radio TV, maison mère de BFM TV et RMC, prévoit de supprimer jusqu'à 380 postes en CDI, un salarié sur trois, et jusqu'à 200 pigistes et intermittents. Les salariés du quotidien sportif L'Équipe refusent, eux, de voir leur salaire diminuer de 10% et leur jour de RTT passer de 22 à 6. C'était la proposition de la direction pour éviter les licenciements. Vite passée la crise du Covid-19, les petits hôpitaux retrouvent leurs maux. À Lisieux, dans le Calvados, le service de médecine interne va fermer, au moins provisoirement, faute de médecins. L'un part à la retraite, l'autre est en arrêt maladie. Pour les soignants de l'hôpital Robert Bisson, c'est une cruelle désillusion. Faustine Calmel.
Cette fermeture, Florent Vullen, infirmier de nuit, l'a apprise jeudi dernier.
Ah, ça a été hyper violent. Moi, j'ai rien vu venir.
Annonce brutale pour celui qui est aussi délégué CFDT. Et cela fait d'autant plus mal, explique-t-il, que les 21 soignants de médecine interne ont été en première ligne face au Covid.
On a été le premier service à être transformé en unité Covid. Et on a été le dernier service à fermer en Covid. On a énormément donné, c'était un service très lourd, mais en fait, les gens n'en partaient pas. C'est hyper angoissant. Là, l'équipe, elle le vit très 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 mal. Il y a eu beaucoup de pleurs le jour de l'annonce de la fermeture du service.
Ces personnels vont être redistribués dans les autres services, au moins jusqu'à l'automne. Un coup de couteau dans le dos, se désole une aide-soignante, même si la direction de l'hôpital a cherché un remplaçant au médecin partant en retraite, sans succès pour le moment. Comme Nesterovski de Sud Santé voit lui dans cette fermeture la preuve que la crise sanitaire ne changera rien.
On reprend un peu la vie d'avant le Covid. De l'ordre de retour à l'équilibre, de tout ce qu'on voulait plus. Parce que derrière, la direction, son objectif, c'est quand même de supprimer des emplois. Et y compris s'ils devaient rouvrir, on ne retrouverait peut-être pas tous les emplois qu'on aurait perdus.
La direction assure que non, insiste sur le provisoire de cette fermeture et promet, en attendant de rouvrir le service, de répartir ses 15 lits dans d'autres unités.
Les députés ont voté hier le projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire après le 10 juillet avec une période de vigilance durant laquelle des restrictions resteront possibles. Le texte sera examiné au Sénat à partir de lundi. 28 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures et le nombre de malades en réanimation est passé hier sous la barre des 800.
Il est 7h08, triste record Agnès, celui du nombre de réfugiés et déplacés dans le monde.
79,5 millions de personnes vivaient l'an dernier loin de chez elles, un record donc depuis 30 ans. Et le Haut Commissariat aux réfugiés qui révèle le chiffre ce matin n'est guère optimiste. La crise du Covid-19 a encore aggravé la situation. Marie-Pierre Véraud.
Impossible de rentrer chez soi. Il y a 30 ans, 1,5 million de réfugiés pouvaient chaque année espérer revenir dans leur pays. C'est moins de 400 000 aujourd'hui, sur près de 80 millions de déplacés. La fermeture des frontières liée à la pandémie n'aidera sans doute pas, mais le virus a déjà frappé durement une population vulnérable et tellement précaire. C'est le cas des Syriens réfugiés au Liban. Céline Schmitt, porte-parole du HCR.
La situation du Covid a encore amplifié leurs difficultés. Plus de la moitié des réfugiés qu'on a interrogés en mai ont déclaré qu'ils avaient perdu leurs moyens de subsistance, y compris leur emploi, parce que ce sont souvent des emplois journaliers. Et de ce fait aussi, beaucoup d'entre eux, plus de 70% d'entre eux, nous ont indiqué qu'ils ont été forcés de diminuer le nombre de leurs repas par jour.
Plus de 80% des réfugiés se retrouvent en outre dans des pays en développement au système sanitaire fragile. Mais il n'y a pas que les hôpitaux et la santé. Que dire des enfants déjà déracinés avec un accès plus que difficile à l'éducation? La pandémie est venue fermer les écoles, dans les camps aussi. Or, les enfants déplacés sont plus de 30 millions, soit le total cumulé des populations de l'Australie, du Danemark et de la Mongolie.
Il n'y a jamais eu autant de personnes déracinées dans le monde. C'est à lire aussi sur franceinter.fr. Un référendum pour le climat. L'IMDE fait son chemin à l'Élysée alors qu'Emmanuel Macron clôture ce week-end la Convention citoyenne sur le climat. Dès ce soir, les 150 propositions seront dévoilées. De leur côté, trois ONG, Greenpeace, le réseau Action Climat et Résistance à l'agression publicitaire, réclament une loi Évin spéciale climat. Explication signée Sandy Dauphin.
En 91, la France a encadré la publicité pour l'alcool et les cigarettes pour des raisons de santé publique. 30 ans plus tard, ces trois associations veulent s'inspirer de la loi Évin pour demander l'interdiction des publicités considérées comme nocives pour le climat. En ligne de mire, les secteurs qui émettent beaucoup de CO2 et qui dépensent des milliards chaque année en spot. Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace.
On réclame une interdiction ferme, franche, sur tous les supports des publicités qui concernent le transport aérien, maritime et automobile et des énergies fossiles, c'est-à-dire vraiment les secteurs qui aujourd'hui ont le bilan carbone le plus élevé en France. Cette loi Évin, elle est importante parce qu'elle a fait la démonstration que pour des questions d'intérêt général, on était capable de poser une régulation pour des questions de santé publique. Il serait cohérent d'appliquer le principe de la loi Évin sur les questions climatiques.
L'année dernière, deux députés, Mathieu Orphelin et Delphine Bateau, avaient déjà proposé d'interdire la publicité pour les voitures les plus polluantes dans la nouvelle loi transport. Amendement retoqué à l'Assemblée nationale.
Il est 7h11, la musique enfin déconfinée avec un premier concert depuis 3 mois.
Patrick Bruel, Catherine Ringer, Benjamin Biolay, Pascal Obispo ou encore Trio, ils sont seront tous sur la scène de l'Accor Hôtel Arena à Bercy demain soir en prime time sur France Bleu et France 2 pendant 3 heures pour une fête de la musique avant l'heure, Mathieu Culeron.
Après de nombreuses hésitations à cause de la crise sanitaire, France Télévisions, associée à Radio France, parvient à organiser une grande fête de la musique dans la salle de Bercy. Un rendez-vous populaire où le public sera bien présent, comme le confirme Alexandra Redemiel, directrice des divertissements de France Télévisions.
44 artistes, 68 chansons. Donc on est vraiment sur un dispositif exceptionnel et on a tout mis en œuvre. Et donc c'est la grande nouvelle quand même, c'est que ça sera le premier grand déconfinement des événements, puisque vendredi soir à l'Accor Arena pour la fête de la musique, 2000 personnes seront là pour retrouver leurs artistes.
Bien sûr, la présence d'un public aussi nombreux exigeait des mesures de prévention à la hauteur de l'événement. Une situation exceptionnelle qui n'a jamais quitté l'esprit de l'équipe en charge du projet.
On va pouvoir être par 2 personnes et puis un siège libre à côté. Le masque sera obligatoire. On a aussi du gel, bien sûr, hydroalcoolique qui est là en permanence pour que cette fête de la musique qui va durer 3 heures et en direct se passe le mieux possible.
La fête de la musique sur France Télévisions et Radio France, le retour pour la première fois d'un spectacle devant des milliers de spectateurs regroupés dans la plus grande salle parisienne.
On flaire, la flamme singulière.
Sur France Bleu et France 2, donc demain à partir de 20h45 avec Benjamin Biolay en vedette.